Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Oui, je suis là aujourd'hui. Je vais être là demain également. Pour ceux qui se demandent où est passé Louis Lacroix, vous avez sans doute remarqué au cours des derniers jours que sa voix était en train de dérailler. Alors, même si les choses allaient beaucoup mieux hier, décider de prendre deux journées de repos, va être de retour jeudi à l'animation en forme. Après avoir retrouvé la voie. Tout de suite, on va jeter un coup d'œil sur la météo. On prévoit de la neige au cours des prochaines heures. D'ailleurs, on va en parler avec Simon Legault d'Environnement Canada. Pour la région de Montréal, on parle d'à peu près 5 à 10 cm. Le problème, c'est qu'il pourrait y avoir un mélange de neige, pluie verglaçante, de pluie également. Neige mouillée, pluie fondante. Ça va commencer en fin de soirée. Ça va se poursuivre au cours de la nuit. Pour aujourd'hui, ce sera généralement ensoleillé, ennuagement l'après-midi, des vents de l'est à 20 km, maximum de plus 1. Et cette nuit, là, c'est ça, pluie mêlée de neige débutant en soirée, se changeant en neige après minuit, risque de pluie verglaçante tard en soirée et après minuit, accumulation de neige là, de 5 cm par endroit. Il y a des régions qui risquent d'être davantage affectées. Là, on parle même de 15 cm pour les régions un peu plus au nord du fleuve Saint-Laurent. Pour demain, pluie interminante, maximum de plus 5. Là, les températures qui vont monter. Jeudi, plus 4. Et ça redescend à compter de vendredi avec moins 6 et moins 11 au cours de la nuit. Bon, un coup d'œil sur ce qui retient l'actualité, ben c'est le début là de ce mouvement de grève. On passe à une étape supérieure dans ce bras de fer entre le gouvernement et le Front commun. Dès aujourd'hui, toutes les écoles publiques de la province sont fermées pour 3 jours. Ça veut dire 90 000 enseignants. L'ensemble du personnel de soutien des écoles également sera en grève. En conséquence, même les écoles dont les enseignants ne sont pas représentés par ce syndicat seront fermées parce que là, on voudra pas franchir les lignes de piquetage. Ajoutez à ça que à compter du 23 novembre, la FAE, Fédération autonome de l'enseignement, et ses 65 000 profs vont déclencher une grève générale illimitée dans leur cas. Alors là, combien de temps tout ça va durer, on le sait pas. Dans ce qui a trait au réseau privé, de façon générale, ce n'est pas touché par le mouvement de grève. La grande majorité des employés des cégeps font partie du Front commun. En conséquence, les cégeps seront fermés. Quant aux universités, elles ne sont pas touchées par ce mouvement pour le moment. Et hier, on a appris que Québec acceptait de nommer un conciliateur à la demande du Front commun syndical pour tenter de rapprocher les partis. Il s'agit de Mathieu Lebrun. Pour les syndicats, c'est une mesure exceptionnelle dans le contexte où demander l'intervention d'un conciliateur à la table centrale, ça ne s'est jamais fait. On va en parler également. D'ailleurs, on va recevoir quelqu'un qui s'y connaît en matière de relations de travail. C'est Maître Pierre Lamarche, ancien adjoint président de la CSN, a fait plusieurs négociations en 72, 75, 79, 82, a aussi été sous-ministre adjoint au ministère de la Santé, arbitre et a aidé à la négociation de centaines de conventions collectives. D'ailleurs, il est toujours arbitre en relation de travail. Alors, on va parler de ce que le conciliateur peut faire, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce conciliateur. Alors, c'est ça. Là, aujourd'hui, on passe vraiment, là, c'est l'organisation pour les familles. Parce qu'il n'y a pas d'école, ce qu'on appelle grand-papa, grand-maman, les voisins. Je sais qu'il y a des centres communautaires un peu partout qui ont déjà annoncé qu'ils allaient ouvrir leurs portes pour tenter d'aider les familles du mieux possible. Mais là, c'est le système D, là, à compter d'aujourd'hui. Télétravail, mais j'entendais des gens qui représentaient la partie patronale expliquer qu'il y a bien des secteurs où le télétravail, c'est pas possible, là. Alors, mais il faut s'organiser. Alors, c'est ça, c'est le système D, puis en espérant qu'on a des grands-parents pas loin ou des bons voisins. Plus près de nous, ben la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, Isabelle Beaulieu, devrait être congédiée aujourd'hui. Les élus, hier, il y avait le Conseil de ville de Montréal, hier, se sont entendus pour mettre fin à l'emploi de celle qui avait succédé à Dominique Olivier. Ça, c'est dans la foulée du scandale dévoilé par le Journal de Montréal et l'émission JE. Les dépenses dans les restaurants haut de gamme, ce fameux déjeuner à Paris, déjeuner aux huîtres. Dans le cas de Mme Beaulieu, là, on parle d'écouteurs à 900 $ également. Il reste un point de mésentente, cependant. Est-ce que l'office sera placé sous la responsabilité du directeur général de la ville, comme le souhaite Valérie Plante, ou d'un tiers indépendant, comme le souhaite l'opposition? D'ailleurs, l'opposition reproche à l'administration Plante d'être pas mal indulgente à l'endroit de Mme Olivier et de diriger les projecteurs vers Mme Beaulieu. Si on met Mme Beaulieu à la porte, pourquoi on ne mettrait pas Mme Olivier à la porte également? Alors, c'est aujourd'hui que ça devrait se passer. L'affaire là-dedans, c'est que le secrétaire de cet office de consultation, lui, refuse de démissionner. Monsieur Grenier, Guy Grenier, s'accroche à son poste et défend les dépenses qu'il a effectuées en disant qu'elles étaient toutes justifiées. Faut dire que le conseil municipal n'a pas le pouvoir de congédier M. Grenier. C'est le nouveau président ou la nouvelle présidente qui peut le faire. Lui dit que tous les frais de dépenses qu'il a fait, là, c'était tout à fait justifié. Il a d'ailleurs remis une copie de son contrat de travail au bureau d'enquête de Québécois, sauf que la plupart des passages intéressants sont caviardés. Et ça, c'est ce monsieur qui, au cœur du scandale, était au Brésil. Il donnait une conférence, il avait donné une conférence, selon les rumeurs, c'est une conférence de 45 minutes à peu près qu'il a donnée. Moi, je me souviens de la photo dans la presse plus. Monsieur parlait au micro, puis il y avait une rangée de chaises vides à côté de lui. Alors lui, pour l'instant, n'a pas du tout l'intention de démissionner de son poste. On revient sur le dossier du tramway du troisième lien à Québec. La Caisse de dépôt aura un nouveau mandat, non seulement elle devra trouver le meilleur système de transport structurant pour la capitale, mais la meilleure option pour améliorer la fluidité entre les deux rives. Ça, à lire, troisième lien ici. Ils ont 6 mois. On élargit le mandat, mais ils ont toujours 6 mois pour déposer un rapport. C'est un mandat, donc, à 2 volets. On ramène le dossier du troisième lien. Souvenez-vous que dans le temps, on parlait d'un pont sur l'île d'Orléans, ensuite de ce fameux tunnel entre Québec et Lévis, avec une facture de départ à 10 milliards de dollars. Mais regardez ce qui est arrivé avec le tramway. On parlait de 4 milliards au départ, puis on était rendu à 10, 12 à la fin. Alors, si on part à 10 milliards avec le tunnel, imaginez, là, ça va finir à combien, cette affaire-là. Le maire de Québec, lui, la seule chose qu'il espère, c'est que c'est pas un prétexte pour prolonger le mandat de la Caisse de dépôt en disant ça va être plus long que prévu. Pour lui, là, le délai de 6 mois, c'est le 20 mai prochain. Et il faut respecter ce délai de 6 mois. Si on a besoin, et là on cite M. Marchand, si on a besoin de 2, 3, 4 ou 5 ans, on aura tout perdu. Alors, il y a déjà des études disponibles, selon M. Marchand. La Caisse de dépôt part pas à zéro. Ce qui va être intéressant dans ce dossier-là, puis j'entendais des spécialistes en parler, la Caisse de dépôt, bon, est à l'origine du REM, ici à Montréal. C'est elle qui a bâti le REM. Si jamais, dans le cas du tramway et du troisième lien, elle décidait non seulement d'étudier les possibilités, d'y aller de rapport de ce qu'on pourrait faire éventuellement pour améliorer le transport en commun, mais si elle décidait également de construire le tramway ou le troisième lien, la Caisse, faut pas oublier, il faut que ça fasse de l'argent, ça. C'est le bas de laine des Québécois, puis c'est votre retraite qui est là-dedans, puis la mienne aussi, puis celle de tout le monde. Là, mettons qu'ils décident de faire un tunnel, puis ils disent aux gens de Québec, ça va être payant. Comme le pont de la 25, comme la 30, c'est payant. Je ne sais pas comment les gens de Québec réagiraient si on leur annonçait que la Caisse, pour faire de l'argent, ça va être un troisième lien payant. J'ai hâte de voir ça. Vous vous souvenez de cette histoire atroce, cette petite Ukrainienne qui avait été frappée par une voiture en se rendant à l'école. C'était en décembre dernier, si ma mémoire est bonne. Et le chauffeur ne s'était pas arrêté. S'était rendu à la police quelques jours plus tard. Là, ce qu'on apprend ce matin dans le Journal de Montréal, c'est qu'il y a des négociations entre la Couronne et l'avocat de la Défense pour trouver, dans le cadre d'un processus de facilitation, semble-t-il, selon ce qu'on apprend dans l'article du Journal de Montréal, ce serait un accident. Et là, la question est de savoir, est-ce que le chauffeur a eu connaissance qu'il avait frappé la jeune fille avec son Jeep Grand Cherokee, la jeune fille qui se rendait à l'école dans le quartier Sainte-Marie. Souvenez-vous que ça avait, à la suite de cet accident-là, là, les gens étaient descendus dans la rue puis on réclamait de meilleures mesures de sécurité à cause du trafic occasionné notamment par les travaux au tunnel La Fontaine. Alors, si tout porte à croire qu'il s'agit d'un accident, la Couronne estime que l'homme aurait dû savoir qu'il venait de frapper l'enfant. Et là, la question est toute là. Est-ce qu'il a eu connaissance? L'autre chose, c'est que les policiers ont voulu avoir accès à son téléphone, mais ont été incapables de le déverrouiller et l'accusé, comme c'est son droit, a refusé de donner les codes d'accès à la police. Alors, on est en train de négocier sur le type d'accusation qu'on va porter et probablement sur la peine qu'on va imposer à ce monsieur. L'histoire des deux matchs en concours des Kings de Los Angeles revient dans le Devoir ce matin. Le gouvernement qui espère payer moins que les 5 à 7 millions de dollars prévus pour les deux matchs. Il y aura un audit externe qui va établir sa participation financière dans l'organisation de ces événements sportifs. Une firme externe va examiner le bilan financier de l'opération une fois que les deux matchs auront été joués en octobre 2024. Le gouvernement a déjà convenu avec Gestev, la filiale de Québecor qui s'occupe d'organiser l'événement, que la subvention n'excéderait pas les 7 millions. On espère là, déjà que c'est... l'objectif est que ça coûte beaucoup moins cher pour présenter ces deux matchs. Radio-Canada nous parle de quelque chose d'assez particulier. Une formation en humour offerte au patron du CHUM. Le cabinet du ministre de la Santé du Québec, c'est Thomas Gerbin de Radio-Canada qui rapporte la nouvelle. Le cabinet du ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, trouve très questionnable une dépense effectuée par le Centre hospitalier de l'Université de Montréal pour offrir une formation de l'École nationale de l'humour à des cadres de l'établissement. Radio-Canada révélait hier l'existence d'un contrat de 60 000 $ intitulé « Compétences humour pour les gestionnaires ». Ça a été dispensé après l'arrivée du nouveau PDG du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Tu sais, là, honnêtement, je sais pas, là, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas voir le malade, puis tu dis, vous avez un cancer, mais moi, vous comptez une blague. Une fois, c'est un gars. Tu sais, non, c'est quoi cette affaire-là? On apprend aussi que l'établissement a octroyé un contrat de 100 000 $ pardon, à la firme McKinsey, dont on a beaucoup parlé au cours des derniers mois, dans le but d'obtenir un portrait comparatif du CHUM par rapport aux autres hôpitaux universitaires similaires. Du côté de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a une frappe qui a tué lundi au moins 12 patients et leurs proches, ça fait des dizaines de blessés, dans l'hôpital indonésien au nord de Gaza. C'est ce que rapporte le ministère de la Santé du Hamas. Les réseaux sociaux ont publié des images chaotiques montrant plusieurs dépouilles dans les décombres d'une section de l'hôpital. Le New York Times rapporte que l'hôpital indonésien a été touché vers 2h30 du matin. L'origine de la frappe n'a pu être vérifiée de manière indépendante. Ça, c'est le gros problème dans ce conflit. Les informations viennent soit du Hamas, soit de l'armée israélienne. Et là, dans quelle mesure ces informations-là sont véridiques? C'est là toute la question. L'armée israélienne a déclaré avoir essuyé des tirs pendant la nuit et avait directement ciblé la source spécifique de ces tirs ennemis. Et pour la question des otages, mais semble-t-il qu'il y a des négociations qui sont en cours actuellement entre le Qatar, l'Égypte et les États-Unis pour la libération des otages entre les mains du Hamas. On dit que ça s'accélère. On espère que des équipes puissent être autorisées à rendre visite aux otages, que les otages soient en mesure de communiquer avec leurs familles. On dit qu'on n'a jamais été aussi proche de peut-être un dénouement dans cette histoire-là. Et il y aurait une trêve là de quelques jours dans les combats. Et on va terminer en parlant d'Hydro-Québec qui a annoncé hier que le faible niveau d'eau dans les réservoirs avait forcé la société d'État à réduire ses exportations, ce qui a fait chuter son profit net de 500 millions de dollars au troisième trimestre. C'est assez étonnant d'apprendre que la faible crue printanière, les faibles précipitations de l'été, il me semble qu'il a mouillé pas mal cet été, c'est un peu difficile à croire qu'ils ont manqué d'eau, mais semble-t-il que c'est pas un sujet d'inquiétude pour Hydro-Québec. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de l'actualité.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Là-dessus, on va aller retrouver un premier invité, c'est Maître Pierre Lamarche, ancien adjoint au président de la CSN, a fait plusieurs négociations dans les années 70 et 80, sous-ministre adjoint au ministre de la Santé. Il est toujours arbitre et a aidé à la négociation de plusieurs conventions collectives. Maître Lamarche, bonjour.
Bonjour, Monsieur Cray.
D'abord, Monsieur Lamarche, peut-être nous expliquer quelle est la différence entre un conciliateur, un médiateur et un arbitre?
Oh, et entre un médiateur et un conciliateur, il y a très peu de différence. Leur mandat, c'est de tenter de rapprocher les parties. L'arbitre, c'est différent. Et dans le secteur de la santé, on parle d'un médiateur-arbitre, c'est-à-dire que il y a un médiateur qui va tenter de rapprocher les parties. Et s'il constate que c'est impossible, alors là, il se transforme en arbitre. L'arbitre, il a le pouvoir de décider de certaines questions qui lui sont soumises et ça oblige les parties. Dans le cas de la santé, il y a simplement le choix entre soit la proposition que fait sur un sujet l'employeur ou soit celle du syndicat. Ce qui crée une pression sur les parties pour se dire, bon, on est peut-être mieux de faire des compromis plutôt que de vivre avec la proposition intégrale de l'autre partie.
Une position que le conciliateur n'a pas, lui. Il peut pas, là.
Non.
Il peut, c'est pas contraignant, lui. C'est pas.
Non. Le conciliateur, tous les négociateurs que j'ai connus, là, qui négociaient à des hauts niveaux, disaient toujours, le conciliateur, il ne peut pas nuire. Parce qu'il dépend essentiellement de l'utilisation qu'en font les parties. Si une partie n'a pas confiance au conciliateur ou n'a pas confiance au mécanisme, il peut tout simplement ne pas contribuer à alimenter le conciliateur. S'il ne peut pas nuire, par contre, il peut toujours aider. Parce que le conciliateur, c'est une personne qui peut venir voir le syndicat. À qui le syndicat peut dire écoutez, nous, on serait prêt à bouger sur cette question-là, puis on serait prêt à aller un peu vers ce que veut l'employeur, mais en contrepartie, on voudrait avoir telle contre-proposition. Et lui, sans révéler cette question-là, va du côté patronal, puis fait exactement la même démarche. Et là, il peut réconcilier ce qui semble être des points sur lesquels les parties peuvent s'entendre et finalement orienter un peu la discussion pour que certains compromis commencent à se réaliser. Et une fois que des compromis importants se réalisent, ben s'enclenche d'habitude là, des compromis sur des questions secondaires qui sont plus simples à résoudre.
Donc,
il peut toujours aider.
OK. Donc, ça veut dire qu'il ne rencontre pas les deux parties en même temps. C'est une partie à la fois.
Il
là.
Peut les rencontrer en même temps, mais il peut aussi faire des ex-partés. Et je vous dirais que dans le processus, il y a toujours les deux situations. Il les rencontre tous les deux en haut au début pour se présenter, pour que chacun se présente, et ensuite il rencontre les parties séparément, et lorsqu'il le juge à propos, il les amène ensemble pour qu'il puisse y avoir des échanges.
Et là, il y a le mandat qu'on lui confie. Si on comprend bien, dans le mandat qu'on a confié au conciliateur dans le dossier qui nous intéresse, c'est que on n'abordera pas les questions salariales. Et là, semble-t-il que la loi prévoit ça, d'ailleurs, c'est ça?
Oui, mais vous savez, le réel s'impose toujours. S'il n'y a pas formellement le mandat de discuter des questions salariales, si par exemple les centrales syndicales, et ça c'est tout théorique là, ce que je vais vous dire, mais disaient, bon, alors nous on est prêt à accepter en partie la contre-proposition de l'État sur les questions d'organisation du travail, mais on voudrait pas être plus pauvre à la fin de la convention collective qu'on ne l'est maintenant. Ça nous prendrait donc une protection contre l'indexation. Alors, si le conciliateur va au Conseil du Trésor et leur apporte ça, ils vont pas dire, ben écoutez, on peut pas absolument pas accepter cette voie-là parce que la loi dit que vous avez pas le mandat de régler la question salariale. Ils seraient certainement écoutés avec intérêt, puis ce serait certainement, dans l'hypothèse que je fabrique, là, une voie de solution qui pourrait mener à un règlement.
Il y a plusieurs enjeux dans une négociation comme celle-là. Il y a plusieurs corps d'emploi. Comment on peut réconcilier tout le monde par l'entremise de la conciliation, là?
Normalement, les syndicats font même plusieurs années avant la négociation, une consultation auprès des membres des syndicats pour savoir quels sont les principaux problèmes, et assez rapidement, là, ils dégagent certaines priorités. On en entend parler, et puis c'est la même chose du côté patronal. Donc, les négociateurs sont habituellement assez bien informé de ce qu'il faudrait pouvoir régler pour intéresser les membres à accepter un règlement. C'est dans le choix des priorités, dans l'établissement des priorités que va s'établir, par exemple, la question de l'organisation du travail, ou la question du temps supplémentaire obligatoire, ou la question de sécurité d'emploi dans certains cas. Et si on est capable de faire un chemin important vers la résolution de certains de ces problèmes-là, mais comme je vous disais tantôt, ça engage un processus dans lequel les autres questions prennent de moins en moins d'importance parce que les grandes questions sont résolues en partie, en tout cas, de façon satisfaisante. Et la situation est plus propice à un règlement que s'il n'y a pas une percée qui est faite au niveau des priorités.
Est-ce qu'il peut contraindre les deux parties? Par exemple, pas de déclaration pendant la conciliation ou autre contrainte là, de façon à ne pas nuire à la conciliation?
Il peut pas les contraindre, mais il peut leur demander, leur suggérer, et habituellement, les parties sont assez habiles dans les négociations et savent vaut mieux avoir une période là, de travail intense qui permette de travailler un peu librement puis d'explorer des voies de solution plutôt que de faire des déclarations qui vont faire en sorte que les attentes au niveau des membres qui vont ensuite voter pour savoir s'ils acceptent ça vont être plutôt déçus. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez remarquer très fréquemment lorsque les syndicats disent ben on a une entente de principe, mais on n'en parlera pas tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas été soumise à l'Assemblée générale. Pour que, donc, il y ait une certaine sérénité dans l'appréciation, disons, des gains qui peuvent avoir été faits.
Vous avez été des deux côtés de la table dans des situations oui. comme celle-là. On a l'impression que l'écart actuellement entre le Front commun et le gouvernement est énorme. Oui. Est-ce que on s'en va vers un conflit qui va être long?
Écoutez, d'habitude, là, quand un vote de grève est voté à 95%, surtout dans l'entreprise privée, ça conduit rapidement à un règlement. Parce que l'employeur sait et comprend que le temps n'améliorera pas sa situation. Et avant que la grève soit exercée, c'est le moment où le syndicat a le meilleur rapport de force. À partir du moment où une grève est déclenchée, forcément, un rapport de force commence à s'atténuer. Dans la situation actuelle, je pense que certainement du côté gouvernemental, on se rend compte que la mobilisation syndicale est très forte, qu'il faut régler des questions et les deux parties sont certainement intéressées à tenter de régler. La question qui demeure, c'est est-ce que le gouvernement a les moyens, comme on le dit communément dans les négociations, d'acheter la paix? Cette question-là demeure une question en discussion.
Et si, dernière question, si la conciliation échoue, c'est quoi qui vient ensuite?
Il y a la poursuite de la négociation. La loi spéciale est très improbable. Dans les années 70 et 80, il suffisait d'avoir la majorité en chambre et on pouvait voter une loi spéciale pour mettre fin à un conflit. Depuis, la Cour suprême du Canada a décidé, ce qui est raisonnable, que le droit d'association qui est inclus dans la Constitution canadienne comprend forcément la raison d'être, c'est-à-dire le droit de négocier et le droit de faire de grève. Ce sont donc des droits constitutionnels qui ne peuvent être limités, donc selon certaines conditions très précises. De plus, la Cour suprême a orienté son jugement en fonction des conventions internationales que le Canada a signées et qui limitent le droit des États de restreindre le droit de grève aux seules conditions où la santé ou la sécurité des populations seraient mises en cause. Or, au Québec, le Code du travail prévoit déjà dans la santé une mécanique de services essentiels que nous envient d'ailleurs plusieurs autres nations et prévoit également dans le cas des policiers et des pompiers qu'il n'y a pas de droit de grève mais qu'il y a le droit d'un arbitrage qui est obligatoire et qui engage les parties. Donc, toutes les mécaniques sont prévues. Donc, s'il n'y a pas d'entente, ben on risque de subir une grève qui soit longue et pénible pour tout le monde.
Maître Pierre Lamarche, ancien adjoint président de la CSN, ancien sous-ministre qui avait participé à plusieurs négociations. Merci beaucoup d'avoir été
merci
avec
beaucoup,
nous ce matin.
C'était
extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Maître Pierre Lamarche qui a participé à des négociations, notamment dans les années 70 et dans les années 80.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Là-dessus, on va parler d'un tout autre sujet. C'est notre invité sera Anne-Marie Boursier. C'est une handicapée visuelle qui se déplace à l'aide d'un chien guide de la Fondation Mira et qui est allée passer quelques jours de vacances en République dominicaine. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Madame Boursier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Craig.
Bon, vous aviez prévu un voyage en République dominicaine avec des membres de votre famille. Étant donné votre condition, vous devez voyager avec votre chien guide. Vous aviez pris toutes les informations nécessaires avant le départ, mais ça s'est pas passé comme prévu. Je vous laisse raconter la suite, là.
Ben, en fait, c'est ça. On partait 8 personnes. Et moi, oui, je voyage. Je voyage avec Polly. Ça va faire 2 voyages que je fais avec elle. Et c'est ça. Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que faut toujours que tu fasses ta affaire avant tout avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Puis eux autres vont te référer quoi apporter comme papier et tout et tout et tout. Et puis c'est ça. Fait qu'on m'avait demandé aussi d'aller consulter le consulat de la République dominicaine. Puis moi, quand je suis partie, là, j'étais en règle. J'avais tous les papiers, j'avais tous les courriels parce que mon agence de voyage avait envoyé tous les papiers parce que c'était assuré que mon chien soit accepté partout. Et, à l'hôtel, et pour être bien sûr que je puisse aller là manger avec mon chien, puis j'ai tous les courriels comme quoi que oui, mon chien est accepté.
Vous promenez partout sur le site, pouvoir vous promener partout.
Exactement. Oui, parfait. Oui, c'est en plein ça, aller dans les bars, dans les restaurants, parce qu'on a des buffets. Il y avait des buffets, mais il y avait des restaurants aussi fermés. Fait que tout, j'avais un plan B au cas où qui n'était pas accepté, mais bon, tout s'est enligné pour que je puisse amener Polly avec moi. La journée du départ, ça a bien été. Sauf que quand on est arrivé dans l'avion, Sunway n'avait pas l'air d'être au courant que j'amenais mon chien avec moi, là. Tu sais, fait qu'ils ont été comme un peu surpris, là. Ils savaient pas trop quoi faire, mais comme j'ai dit, c'était marqué ses billets parce qu'on avait, son nom était sur le billet, c'était bien marqué chien d'assistance, là. T'sais. Fait que, mais sinon, c'était correct, tu sais. On est parti, on est arrivé là-bas. Il y a pas personne qui a dit, je suis arrivé à la douane, fallait payer une importation, exportation, mais on s'y attendait, là, pour payer, fait que c'était pas grand-chose, c'est à peu près 10$ là, aller-retour, bien entendu. mais personne ne m'a posé de questions. J'étais dans l'aéroport. Personne ne m'a posé de questions. On est arrivé, on a même pris l'autobus de l'aéroport à l'hôtel. Puis le chauffeur, il a pas fait un chien. Tout semblait être bien correct, là, tu sais. J'avais tous les papiers avec moi. Là. J'ai toujours un duo tang là, avec tous les papiers en règle là, de la Fondation Mira avec moi. Et puis, j'ai arrivé à l'hôtel. J'ai même pas mis un pied en bas de l'autobus. Et là, ça me crie « No perro, no perro ». Pas de chien, pas de chien. Et là, moi, j'en fais pas de cas parce que je sais qui aller rencontrer parce que j'avais même les noms des personnes qui contactaient. Là, j'avais un monsieur Marino puis un monsieur Guillermo. À qui contacter là, en arrivant à l'hôtel. Là, ça me crie ça. Mais là, voyons, c'est qui ont capoté. Ça a bien été tout le long dans l'aéroport. Il n'y a pas personne qui m'a posé de question. On ne m'a même pas demandé les papiers de mon chien là, à l'aéroport aux douanes. On ne m'a rien posé comme question. On m'a dit, vas-y, bonnes vacances, puis c'est tout. Là,
c'est rendu à l'hôtel que ça s'est compliqué. Là.
Ben oui. Fait que là, moi, j'arrive, puis je demande comme c'était supposé. Je demande à parler à M. Marino, Guillermo, puis en partant, ils me disent, ils sont pas là, puis t'as pas le droit de chier. Fait que là, je fais, voyons. Fait que là, je monte, j'avais fait une photocopie, mais je dis, oui, mon chien est accepté, là, je comprends pas, là. Je veux dire, vous avez été mis en contact, j'ai tout, là, on leur montre le courriel. C'est il n'y a pas de chien ici, là. Il n'y a jamais eu de chien, il n'y en aura pas, là. Fait que, je dis, il y a un problème certain, là. Fait que là, il fait, non, mais vous avez pas le droit de chien. Fait que là, veux-tu vous dire que j'ai encore sur le cœur, là?
Mais est-ce que le représentant de votre agence de voyage, habituellement, ils ont un représentant à l'hôtel? Est-ce que
oui?
Y avait quelqu'un qui pouvait essayer de vous aider puis régler le problème, là?
Ben, en fait, c'est justement, on est allé le voir, puis lui, oh, non, il se mêle pas de ça, là. Lui, il a fait une photocopie de ma photocopie. Puis il y a la barrière des langages, hein, là-dedans. Ouais. Fait que moi, je parle pas non plus. Je me débrouille très, très bien en anglais, mais je parle pas espagnol. T'sais? Fait que déjà là, mais lui, il parlait français, là. Puis là, il me dit, il est allé porter la photocopie à quelque part, puis il dit, moi, je peux pas rien faire d'autre parce que, ben, moi, je suis juste un employé de Sunwing, fait que, moi, j'ai pas d'affaires avec l'hôtel. T'sais? Fait que là, moi, on est arrivé, il était à peu près 2 heures de l'après-midi, on n'avait pas mangé, parce qu'on était là à partir de 2-3 heures ouais. du matin à l'aéroport à Montréal, là. Fait que là, il y en a pas question, là. Mon chien rentre pas ici, là. Puis il y en a un des employés qui parlait français, qui a entendu la conversation, puis là, moi, je pleure ma vie, là. Je veux dire, qu'est-ce que je fais, là, rendu là? Tu sais, j'étais avec toute ma famille, là. Fait que je fais quoi, moi, rendu là? Fait que là, je suis en train de penser à un plan B, là, tu sais. Je m'en retourne chez nous avec mon chien, là, tu sais. Fait que là, le monsieur, il s'en va parler, celui qui parlait français, je pense qu'il s'appelait Angelo. Il revient, puis il me dit, bon, monsieur Guillermo veut vous rencontrer vers 6 heures. Fait que je fais, OK, il n'y a pas de problème. Fait qu'ils allaient défaire vos bagages, puis revenez pour 6 heures. Mais là, il est rendu une affaire comme 3 heures, pas loin de 4, il a 4 heures. Fait que là, on s'en va à notre chambre. Mais là, moi, je pleure, je me dis, ça va me donner quoi, là? Tu sais, vas-tu me mettre dehors de l'hôtel, tu sais? Ça fait que là, attends, à 6 heures, on se présente. On a attendu au moins 1 heure, moi et mon mari. Et ça commence.
Finalement, madame, est-ce qu'on a réussi à trouver un arrangement? Est-ce que...
Ben, en fait, ce qui est arrivé, là, c'est que ils m'ont seulement dit que mon chien avait le droit à l'air climatisé dans ma chambre, que j'avais le droit de manger, de souper à la terrasse dehors. Aucun accès
à l'intérieur.
À l'air climatisé, à un restaurant fermé, comme à la carte, ou ces choses-là, là. Il y avait 8 peut-être restaurants environ, là. Et, j'ai eu le droit à 3. Fait que c'était juste dans les terrasses. J'avais pas le droit d'aller dans un bar. La seule chose que j'ai été capable de faire, c'est de l'amener sur le bord de la piscine. En fait, pas dans la piscine. De toute façon, les chimérons vont pas dans la piscine.
Ouais.
Mais, je veux dire, sur ma chaise, puis je l'attachais pour être bien sûr, là, ça, pour pas qu'elle bouge. Fait que j'ai fait 2-3 saucettes, c'est à peu près tout.
Là, au retour, vous avez porté plainte et vous avez pas eu de réponse.
Ouais. Ça a pris un mois et demi avant d'avoir une réponse. La dernière réponse, c'était le 13 novembre que j'ai eu. Mais tu sais, c'était pas aucune réponse, là. Ça me disait, mettons, on a examiné votre dossier. On vous revient. Puis là, j'ai une réponse le 13 novembre disant que l'hôtel, il y avait eu un malentendu parce que le seul endroit que mon chien n'avait pas le droit d'aller, c'était au buffet parce que c'était restreint et dans la piscine, question de sécurité et d'hygiène. Mais c'est tout, là. Il y a eu un... Tu sais, j'ai mal compris.
OK.
Hey, là, j'étais fâchée. Puis là, pour s'excuser, on m'offrait 494 $. Puis Sunwing, parce que il est arrivé plein de choses entre-temps, là. Mais là, on va parler de ce qui nous intéresse ici. Fait que j'ai dit, ben, ris-tu de moi, là, ou quoi, là? J'ai une plainte de 4 pages, là, de tout ce qui s'est passé, là. Fait que j'ai pas inventé ça, puis on est 8, là. Fait que, tu sais, c'est ma parole contre Sunwing, contre les hôtels Rio Bembu, là, tu sais, parce que c'était à cet hôtel-là qu'on avait été, là, à Punta Cana, Rio Bembu. Fait que j'ai fait, ben moi, je sais, puis là, ils m'ont demandé de signer un contrat, là, que j'aille pas voir les médias, ces choses-là, puis j'ai refusé, parce que ouais. Si je commence à faire ça, d'un, c'est que j'accepte qu'ils m'ont menti, puis, tu sais, c'est déjà compliqué d'être handicapé dans la vraie vie, que... On commencera pas, puis tu sais, il y en a plein qui veulent voyager avec leur chien. Puis, tu sais, c'est pas... Oui, il y en a qui voyagent pas avec leur chien, mais moi, pour moi, là, c'est mon autonomie.
Moi, est-ce que c'est la première fois qu'une affaire comme ça vous arrivait?
Oui. Oui, oui. C'est la première fois.
Puis vous avez voyagé beaucoup avec votre chien?
En fait, je suis partie l'année passée trois semaines à Rome. J'ai jamais eu aucun problème. Je suis allée en Italie. Je suis allée à Pompéi avec, je suis allée à Boiano, je suis allée à Rome. Je n'ai jamais eu aucun problème. Si je fais un tout inclus, c'est l'enfer.
Ben, on va vous souhaiter bonne chance. On va souhaiter que les choses se règlent avec Sunwing à votre satisfaction parce que, effectivement, dans votre état, un chien guide, c'est essentiel là, si vous voulez avoir profité un peu de la
ben,
vie.
C'est
là.
Ton autonomie.
Ben oui.
Tu sais, moi, là, je pouvais aller n'importe où. Tu sais, je veux dire, elle avait déjà appris là, du buffet à aller à ma chambre. Là. Tu sais, j'ai pas besoin de demander à qui que ce soit. Hey, je peux aller à ma chambre? Non, je prends mon chien puis je m'en vais à ma chambre. C'est ma liberté, c'est mon autonomie, c'est ça.
Merci beaucoup, Mme Boursier.
Je vous remercie infiniment.
Merci. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Anne-Marie Boursier, handicapée visuelle, qui a une petite mésaventure en République dominicaine.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On va maintenant parler des notaires, parce qu'il y avait un dossier dans la presse avec le retour à la normale, appelons ça entre guillemets, là, après les mesures de confinement puis de télétravail. Il y a un projet de loi qui est à l'étude actuellement qui fait que les signatures à distance, c'est terminé pour les actes notariés. Les clients devront se déplacer en personne au bureau du notaire pour pouvoir officialiser leurs documents. On en parle avec Magali Drouin, elle est notaire au cabinet CMVR. Madame Drouin, bonjour.
Bonjour, bonjour, ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va très bien, merci.
Bon, OK. Là, il y a un projet de loi actuellement qui fait que les rencontres sur Teams ou les rencontres sur Zoom, les signatures à distance, tout ça, c'est terminé. C'est qu'on revient un peu à ce que c'était avant la pandémie, là.
En fait, c'est malheureusement plus un projet de loi, étant donné que la loi a été adoptée le 24 octobre, qui rend les signatures à distance encore possible, mais seulement sur circonstances exceptionnelles. Donc, oui, effectivement, on revient un peu en arrière. En fait, c'est vraiment ça. C'est un gros recul de 3 ans en arrière pour faire revenir nos clients à nos bureaux pour signer leur financement, achat, testament, mandat, comme ça l'était en fait là, il y a de ça avant pandémie.
Parce que là, avec la pandémie, vous aviez développé de nouvelles façons de travailler. En fait, tout le monde a développé de nouvelles façons de travailler qui rendaient les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles aussi, là.
Effectivement. Encore à ce jour, on peut toujours compléter toute la transaction avec nos courtiers immobiliers à distance. On peut faire nos déclarations d'impôts, voir notre psychologue. On peut même obtenir des ordonnances du médecin en ligne. Rendu au notaire, c'est revenir à nos bureaux. Puis ce qui est d'autant plus aberrant, c'est que la même loi exige dans les prochaines années l'abandon du papier. Donc, mes clients se déplacent à mon bureau de Belleuil et je leur fais signer sur leur téléphone avec le même logiciel que s'il l'était à distance.
Pourquoi on impose ça au notaire?
C'est une très bonne question. On est un peu, nous aussi, on cherche un peu la raison, mais la raison, on ne le sait pas. Est-ce que c'était par peur, par crainte du législateur? On ne le sait pas. Nous, ce qu'on veut pas trouver, on veut pas savoir c'est quoi la raison. On veut plus régler. On veut avoir le jugement du notaire à savoir si c'est pertinent. Parce qu'au final, on rencontre toujours nos clients à nos bureaux. On les aime. On veut les voir. Mais c'est pas facile pour tout le monde de prendre congé, de faire garder les enfants, de tout ça pour en fait là, aller signer une transaction au notaire.
Là, mais en même temps, un acte notarié, c'est extrêmement important. Puis là, je lance ça en l'air. Là. Est-ce que on veut pas éviter peut-être les fraudes? Parce qu'un acte notarié, là, c'est pas toi qui as signé, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Là. Est-ce que c'est pas pour éviter justement ces cas de fraude et puis de s'assurer que la personne qui signe est bel et bien la personne qui doit signer le document, là?
Eh bien, pour moi, c'est pas une question parce qu'on. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait partie d'un ordre. On a des règlements à suivre, un code de déontologie. La signature à distance est autant régularisée que la signature en présentiel. Donc, on a des procédés qui sont extrêmement complexes pour vérifier l'identité de la personne. On reçoit les pièces d'identité d'avance en couleur. On les redemande aux Teams, et ils les font même tourner pour qu'on y voit les filigrammes. Donc, pour moi, la question de l'identité, c'est pas une crainte à avoir avec la signature à distance. On l'a fait pendant 3 ans, ça a très bien été. À ma connaissance, il y a eu aucune réclamation au niveau de notre déontologie, notre responsabilité ou quoi que ce soit. Donc, ça a été prouvé que c'est un outil qui était assez formidable et qui n'a pas causé d'inconvénients à ce niveau-là.
Les exceptions vont s'appliquer dans quelles circonstances?
La loi dit circonstances exceptionnelles, par contre, il faut la lire avec les lignes directrices qui ont été imposées par la Chambre des notaires. Donc, c'est sûr que les circonstances exceptionnelles, en fait, c'est de dire que faut quasiment avoir une jambe brisée ou un cancer, malheureusement, pour pouvoir bénéficier de rester à son domicile ou à son travail pour faire sa signature à distance. Ce qui était utile n'est pas nécessairement, malheureusement, exceptionnel.
Et dans l'article de la presse, on dit que ça complique tellement le travail de certains notaires qu'il y en a qui ont démissionné même.
Mm-hmm. Effectivement, tu sais, dans les trois dernières années, on s'était toutes, revirées de côté. On avait toutes mis nos études de façon technologique. On s'était adaptés, nous aussi, à tout ce changement-là. Tu sais, je veux dire, il y a 40 ans, c'était de la dactylo. Il y a 25 ans, c'était du fax. C'était rendu la signature à distance et on a tout fait ainsi. Donc, c'est sûr que de revenir comme ça en arrière, la profession, malheureusement, il y en a de moins en moins en plus. Bien là, c'est sûr que ça cause encore plus problématique pour les jeunes notaires ou des notaires qui avaient envie cette profession-là. Là, c'est de plus en plus de critères, d'obligations, d'exceptions. Ça devient un peu difficile de suivre.
Mais en même temps, on dit que le Québec était un des seuls endroits au monde qui permettait ce genre de procédure, qu'à l'international, c'est pas une pratique qui est permise et courante.
Bien, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'international, il n'y a pas beaucoup de notaires aussi. On est au Québec, on est dans les seules provinces qu'on fonctionne avec le Code civil du Québec, qui est parmi nous les notaires. Mais c'est sûr que si on compare ailleurs, il n'y en a même pas des notaires. Par contre, les avocats, eux, à l'extérieur, à l'international, ils en font des signatures à distance, ils en font. En Ontario, c'est pas des notaires, c'est des avocats, puis ça existe.
Là, il y a des pétitions qui vont être envoyées au ministre?
La pétition a démarré hier dans notre intérêt de faire changer la donne, de revoir, de sensibiliser la population parce que c'est une loi qui a quand même passé, selon moi, un peu trop sous silence. Fait que le premier but de la pétition, c'est de dire aux gens quel est l'impact pour eux parce que c'est la population qui en est impactée de cette fameuse de ces fameux cas exceptionnels-là. Fait que la pétition, effectivement, c'est dans nos premières démarches pour faire valoir nos droits puis d'espérer avoir la signature à distance selon le jugement du notaire et l'intérêt, là, bien sûr, toujours des parties.
Madame Drouin, merci infiniment de ces informations.
Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous.
Bonne journée. Magali Drouin, notaire au cabinet CM. VR. C'est actuellement la 8e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits. Et pour en parler, on va accueillir la directrice de l'Observatoire des Tout-Petits, Madame Julie Caillot. Est-ce que je prononce bien votre nom, Madame?
Julie Caillot.
Caillot,
oui. Bonjour,
parfait. Bonjour, Madame Caillot. D'abord, première des choses, j'apprends qu'il y a une Grande Semaine des Tout-Petits. J'ignorais que ça existait. C'est la 8e édition. Parlez-nous un peu de cette semaine-là. On est en plein dedans.
Oui, ben effectivement, c'est une grande semaine qui a débuté hier avec la journée internationale de l'enfance. Puis c'est un grand mouvement de mobilisation qui réunit des dizaines et des dizaines de partenaires qui veulent faire de la petite enfance une priorité pour le Québec parce que dans le fond, c'est à cette période-là de la vie que tout se joue et que tout commence.
Quand vous parlez des tout-petits, là, c'est de quel âge à quel âge?
Alors, à l'Observatoire, on s'intéresse à la période périnatale, donc vraiment déjà dans la grossesse, jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est comme ça qu'on définit nos tout-petits.
Bon, et là, vous parlez des nombreux problèmes qui ont des impacts directs sur les tout-petits. Inflation, problème d'accès à un service de garde de qualité, hausse de l'insécurité alimentaire, logement trop cher. Finalement, ce sont un peu comme bien des gens, des victimes collatérales de ce que l'on vit actuellement dans la société, là.
Effectivement, vous avez nommé un certain nombre de phénomènes sociétaux qui heurtent beaucoup de Québécois et en particulier les tout-petits parce que la petite enfance, c'est vraiment la période cruciale pour le développement. Donc, c'est vraiment le moment de réunir les conditions les plus favorables pour mettre le tout-petit sur une trajectoire de vie qui va être positive. Alors, on l'a regardé sous l'angle des droits des enfants. C'est ça le thème de la Grande Semaine des tout-petits cette année. Et puis on a réuni des indicateurs qui permettent d'éclairer certains droits fondamentaux auxquels au Québec on s'est engagé en signant la Convention internationale des droits de l'enfant des Nations unies.
Quand on regarde les statistiques en ce qui a trait à l'éducation de qualité, par exemple, meilleurs soins de santé possibles, nourriture, vêtements, un endroit sûr pour vivre, on s'aperçoit qu'au Québec, on est en retard pas mal sur les autres provinces, là.
Ben, en fait, ce qu'on constate, notamment dans l'étude québécoise sur la parentalité, hein, qui est toute récente, 2022, le quart des parents de tout petit, donc 25% des parents d'enfants âgés de 0 à 5 ans, percevaient leurs revenus comme insuffisants, voire très insuffisants, pour répondre aux besoins de base de la famille. Vous en avez nommé plusieurs, le logement, l'alimentation, l'habillement. Donc, on comprend que ces familles-là font face à des défis incroyables pour pouvoir offrir à leur enfant un environnement qui soit stimulant, qui les prépare bien pour qui prépare bien l'enfant pour l'entrée à l'école. Donc, on a un certain nombre de politiques qui sont en place au Québec et qui font l'envie d'autres provinces et d'autres régions du monde. Toutefois, pour ces parents-là, et quand même c'est le cas, il reste beaucoup de chemin à faire.
Mais est-ce qu'au départ, la solution passe pas par les parents?
Oui, et les parents ont besoin qu'on les soutienne. En fait, je vous parlais tout à l'heure de la convention relative aux droits de l'enfant. Cette convention-là nous engage à, comme collectivité, à faire respecter le droit des tout-petits et à soutenir les parents, à aider les parents pour qu'eux-mêmes contribuent au respect des droits des enfants. Donc, on a éclairé d'ailleurs un droit qui est le droit d'avoir une famille aimante et d'être entouré d'une communauté bienveillante. Donc, c'est une responsabilité collective que les parents se sentent outillés, soutenus quand ils traversent des moments difficiles. La même enquête que celle à laquelle je faisais référence tout à l'heure, d'ailleurs, nous dit que 23% des parents de tout petit se sentent rarement, voire jamais, soutenus par leur entourage dans les moments difficiles. Donc, tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre au niveau des services sociaux, au niveau des organismes communautaires aussi autour des parents, va venir favoriser le développement des tout petits.
Quels outils vous avez pour défendre les tout-petits? Quels moyens? Parce que quand on parle des enfants, bon, ils ont pas droit de vote, il y a pas d'influence, ils peuvent pas faire de lobby, il y a aucune influence politique ou économique, ils sont tout à fait vulnérables. Alors, comment vous pouvez faire valoir leurs droits?
Oui, ben vous l'avez très bien dit, les tout-petits dépendent entièrement des adultes. Donc, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on va pouvoir soutenir leur développement. Les pistes de solutions, il y en a plusieurs. C'est comme je disais tantôt, d'agir sur les conditions de vie des familles, réduire le niveau de stress qui pèse sur les parents. Puis alors là, on pense évidemment au stress financier, mais au stress de la conciliation travail-famille, au stress aussi de vivre dans un logement qui serait pas adapté aux besoins de la famille, au stress de devoir payer la facture d'épicerie. Donc tous ces éléments-là. On peut aussi agir sur l'accès à des milieux de garde éducatifs de qualité. Et puis, un autre levier d'action qui est assez fondamental, c'est de réduire les barrières d'accès aux services de santé et services sociaux qui sont existants. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de services qui sont offerts aux familles qui, malheureusement, n'en profitent pas toujours.
Est-ce que vous avez une oreille attentive au gouvernement?
Oui, tout à fait. En fait, ce dont on parle ce matin, on a eu l'occasion d'en parler avec plusieurs élus. Puis, une initiative qu'on trouve particulièrement intéressante, ben, c'est celle de créer un poste de commissaire au bien-être et aux droits de l'enfant. Donc, ça, c'est vraiment très chouette qu'on aille de l'avant avec cette recommandation du rapport Laurent. Et puis que ce rôle soit confié, dans le fond, soit désigné, élu par l'ensemble de l'Assemblée nationale. Donc, on prend acte que répondre aux droits de l'enfant, c'est quelque chose de transversal, puis ça prend un ensemble de politiques cohérentes et qui s'additionnent pour créer des environnements favorables au développement des tout-petits.
Vous venez de faire allusion au rapport Laurent. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec la DPJ?
En collaboration avec la DPJ, non. En revanche, est-ce qu'on fait partie de ceux qui suivent les recommandations du rapport et comment elles sont suivies des faits? Oui, à titre d'observatoire, c'est vraiment notre rôle de mobiliser les connaissances en matière de petite enfance pour ensuite éclairer les décideurs dans la prise de décision et puis aussi pour mettre les projecteurs sur des pistes de solutions.
Là, c'est la semaine des tout-petits qui a débuté hier. Est-ce qu'il y a des activités? Comment vous allez vous faire voir cette semaine, vous faire entendre?
En fait, il y a eu tout un gros événement de lancement la semaine dernière avec tous les partenaires du milieu qui a donné de l'énergie à tout le monde. Là, c'est sûr, on est dans une semaine qui est assez particulière avec le mouvement de mobilisation sociale qu'on connaît. Donc, ça a un petit peu transformé le calendrier. Mais il va y avoir notamment des levées de drapeaux dans les différentes municipalités. En fait, je pense quasiment 400 municipalités au Québec qui vont lever le drapeau pour manifester leur soutien à créer des environnements de vie qui soient réellement favorables au développement des enfants et puis qui s'engagent aussi à respecter leurs droits.
Madame Julie Caillot, directrice de l'Observatoire des Tout-Petits, merci infiniment.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci. Bonne journée à vous aussi.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Alors, on va parler ski acrobatique parce que la nouvelle saison est sur le point de débuter et notre prochain invité est un habitué de l'émission.
Un ami d'émission.
Ah ouais, il fait presque partie de l'équipe, je te dirais. C'est Michael Kingsbury, celui qu'on appelle le King des boss. Salut, Michael.
Salut, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, ça va bien, merci.
Écoute, tu te prépares pour ta 13e année sur le circuit de la Coupe du Monde. Est-ce que, j'imagine que tu as encore toujours le feu sacré et que tu es toujours extrêmement motivé, là?
Oui, non, 100%. C'est sûr, en finissant une saison 2023 de la manière que j'ai faite avec les deux titres de champion du monde, toutes les globes de cristal puis 4 victoires en ligne, ça te garde sur le bout de ta chaise parce que, tu sais, pour moi, je prends la saison qui s'en vient comme la plus importante de ma carrière. Oui, il n'y a pas de championnat du monde ni d'Olympique, mais on est au milieu d'un cycle olympique qui est probablement peut-être mon dernier, donc je veux rester au sommet, puis le sport avance rapidement, donc j'ai eu un bon été d'entraînement, puis je reste motivé.
Michael, comment tu fais pour garder le feu, le désir de vaincre, tu sais, quand tu as tout gagné, comment tu fais pour garder ça allumé?
Ben, tu sais, j'aime ce que je fais. J'ai une équipe incroyable autour de moi. Puis, je pense que le monde, il voit pas beaucoup, tu sais, c'est quoi que ça prend pour gagner. Tu sais, souvent, ils vont juste montrer mes dernières descentes à télé, whatever. Mais, moi, j'adore le processus de tout ce que j'ai à faire. Puis, tu sais, j'ai la chance d'être dehors, de gagner ma vie, puis pratiquer un sport, puis, de comme jouer dehors. Donc, j'essaie de profiter le plus que je peux. J'adore tous les petits détails que je dois faire pour me sentir prêt. Puis j'ai eu un été, c'est ça, extraordinaire d'entraînement. Je me sens plus rapide, plus fort. Puis c'est le fun de voir le travail que tu fais au gym quand tu fais des efforts puis tu vois la différence que ça fait sur la neige. C'est oui, je m'en viens plus vieux, puis tu sais, j'ai pas mal atteint tous mes objectifs, mais en même temps, le désir de gagner puis de revivre toutes les émotions que le sport me fait vivre encore plusieurs fois. Donc c'est ça, je me sens prêt, puis je sais que ça va être une saison qui va pas être facile parce que c'est ça, les jeunes puis mes compétiteurs, mes coéquipiers, ils me poussent à tous les jours, puis ça me permet de ressortir le meilleur de moi-même.
Michael, tu quittes cette semaine là, pour la Finlande pour entreprendre cette 13e année. Tu sais, on le sait que le sport, c'est une game d'intimidation. Veux pas, il y a de l'intimidation envers ceux que tu compétitionnes. Est-ce que tu sens que quand tu arrives en quelque part, oh, c'est Michael Kingsbury qui est là, les autres te regardent. Est-ce que c'est ce jeu-là d'intimidation avec ceux avec qui tu compétitionnes?
Ouais, disons être intimidateur, sans le faire vocalement, c'est un peu ça le but. Mais oui, tu sais, je sens, je pense pas que j'intimide nécessairement, mais je pense que
juste par ta présence là, c'est.
Je pense que je fais ressentir ma présence. Tu sais, je le sais quand je suis en haut de parcours. Tu sais, normalement les physios, certains coachs sont en haut du parcours, puis les entraîneurs, il y a d'autres entraîneurs en bas avec des caméras. Puis je le sais quand je suis en haut, je l'entends dans 5 à 10 walkie-talkie que Kingsbury est en haut, puis il va faire sa descente. Parce que je pense que tout le monde veut prendre une vidéo, tout le monde veut essayer de prendre les temps pour essayer de se mesurer à moi ou savoir exactement quoi faire pour la compétition. Mais c'est ça, tu sais, moi je fais mes affaires, je focus sur mon plan à moi, puis c'est tout le temps bon quand le monde essaie de copier, que toi essayer de copier les autres. C'est sûr que moi, je prends les informations que je veux sur mes adversaires, mais en même temps, j'essaie de toujours suivre mon plan de match à moi. Puis, c'est ça, la manière que je veux intimider, c'est juste par ma prestance du parcours, puis le fait que ça fait longtemps que je suis là, puis que les autres, ils savent que s'ils veulent, ils veulent me passer, ils vont devoir sortir leur 110%.
Qui devrait être tes principaux compétiteurs s'il y en a?
Oh non, il va en avoir. La saison dernière, je pense que c'est la saison la plus compétitive que que j'ai eu de ma carrière. Donc, ça reste un peu les mêmes gars. Il y a un Suédois, un Australien, un Japonais, un Français. Puis, il y a quelques jeunes Américains qui poussent. Je dirais que présentement, le top 10 au monde, il est très solide. Mais, tu sais, je pense que avec Walter Wahlberg, le Suédois, et Kuma Horishima, le Japonais, quand on est vraiment sur notre haute game, c'est vraiment en it, les trois, c'est vraiment difficile de venir se faire placer le podium, mais je te dirais que ce serait eux mes principaux rivaux.
Dis-moi, Michael, est-ce qu'à travers tout ça, parce que c'est vous, mettons, vous trois, vous faites le show là, quand il y a une compétition, est-ce qu'il se développe une camaraderie? Est-ce qu'il se développe une complicité entre vous trois?
Ouais, ben, entre nous trois, ce qui est cool, c'est qu'on skie tous avec la même compagnie de ski, puis on a fait les trois un podium aux derniers Jeux olympiques, aux championnats du monde, à plusieurs événements. Puis le fait qu'on skie avec la même compagnie, à chaque année, on est invité à aller au Japon à la fin de la saison pour travailler sur le ski, faire de la promotion au Japon, puisque le ski est fait là-bas. Puis, veux pas, on va passer un 10 jours à 2 semaines, les trois gars ensemble. Donc oui, on a une camaraderie qui est peut-être un peu différente parce que on se retrouve un peu dans des mêmes positions souvent. On se prend compte puis on se respecte un et l'autre. C'est une belle compétition. C'est sûr qu'on compétitionne, on se parle pas beaucoup. On est tous concentrés sur nos affaires avec nos équipes. Mais après les courses, c'est du monde que je peux parler parce qu'on vit un peu les mêmes émotions. De compétition en compétition, tout le temps un petit peu plus de pression vu qu'on est les têtes d'affiche à chaque événement, mais c'est le fun d'avoir des compétiteurs avec qui tu peux jaser de trucs que pas tout le monde est capable de vivre pour l'instant.
T'as dit qu'on était dans le milieu d'un cycle olympique, donc tu vas te rendre jusqu'au prochain jeu d'hiver. As-tu commencé à penser à ce que tu vas faire après?
Ouais, j'ai des petits projets déjà pour mon après-carrière. C'est sûr, tu sais, que j'aimerais ça pouvoir skier le plus longtemps possible. Puis, tu sais, je veux pas me mettre de date de fin, mais tu sais, je me dis qu'il y a pas mal plus de chances que ce soit mon dernier cycle que je sois au milieu de ma carrière. Disons que je suis plus dans le back nine de ma carrière présentement. Puis je veux finir ça en beauté. Mais sinon, tu sais, depuis quelques années, j'ai un camp de ski que j'ai juste la chance de faire une fin de semaine au Mont-Saint-Sauveur. Cette année, on va le refaire au mois d'avril. Mais on a plusieurs demandes, puis ça serait le fun de pouvoir faire le camp, une saison que je compétitionne pas un peu partout au Canada, continuer à promouvoir le sport, puis avoir la chance de faire des dates à plusieurs montagnes à travers le Canada, puis même aux États-Unis, puis peut-être amener ça un peu partout internationalement, mais c'est ça. Pour l'instant, ça serait un des projets qui me garderait un peu dans le sport, puis sinon j'ai plein d'autres idées pour ce qui reste de mon futur.
Ben merci Michael de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je sais que t'es un fidèle de l'émission. On peut toujours compter sur toi quand on veut faire une entrevue, savoir ce qui arrive avec Michael Kingsbury. Tu quittes d'ailleurs bientôt là pour cette semaine pour la Finlande. C'est la saison qui commence, là, j'imagine.
Ouais, c'est la saison qui part. On commence le 2 décembre. Puis cette année, ce qui est spécial, c'est qu'on a 7 courses entre le 2 décembre au 23 décembre. Donc c'est le plus de courses que je vais faire dans un laps de temps de 3 semaines, 21 jours. Donc, ça va être comme un marathon pour starter l'année, mais la forme physique est là, puis j'ai bien hâte de commencer. Puis, je voulais juste dire un petit salut à Paul, puis bon rétablissement.
Ben, c'est entendu, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Michael.
Merci, c'est gentil.
Salut,
bonne fin de journée.
Kingsbury, skieur accro, le king des bosses. Non, Michael, c'est honnêtement, c'est un...
Dans une classe à part, là.
Ah ouais, écoute,
il me dit, je suis sur le back nine de ma carrière. Juste te dire que le premier neuf, il était très, très bon. Soit dit en
passant. Écoute, c'est 24 globes de cristal.
Ça n'a aucun sens.
Tu mets ça où dans la maison?
Là? Hey, pas facile.
Ça prend une grosse tablette de poignée.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.